Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie de RFI Midi, nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Et on va revenir sur la visite en Haïti du secrétaire d'État américain. Aucune annonce de la part d'Anthony Blinken. Des rencontres, notamment avec les responsables politiques. Et puis un appel aux contributions financières pour poursuivre le déploiement de la mission multinationale. On parlera aussi tout à l'heure de la libération de 135 prisonniers politiques au Nicaragua, soulagés, mais contraints de quitter le pays immédiatement pour le Guatemala voisin. Et puis l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, il y a un premier résultat après la table ronde contre la vie chère organisée en Martinique.
Oui, les participants se sont engagés sur une baisse des prix dès le mois prochain de 20% en moyenne sur 2500 produits dits de grande consommation. Nous entendrons tout à l'heure un membre du conseil territorial, de la collectivité territoriale qui a assisté aux échanges.
À tout à l'heure. Et d'abord, le journal. On va faire le point sur l'actualité internationale et on vous retrouve, Gilles Moreau, pour parler du nouveau Premier ministre. En France, Michel Barnier a commencé ses consultations en vue de former un gouvernement.
Oui, homme de droite de 73 ans, le Premier ministre désigné par Emmanuel Macron s'est notamment entretenu ce matin avec Gabriel Attal, désormais à la tête du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Ce groupe n'exclut pas de participer au nouveau gouvernement sans blocage ni soutien inconditionnel, explique son président. Quant à la droite, ses chefs ont posé leurs conditions à l'issue de leur rendez-vous avec le Premier ministre. Les Républicains décideront de leur participation au gouvernement en fonction du programme de Michel Barnier, en particulier sur le pouvoir d'achat, les finances publiques, l'immigration et la sécurité.
Alors, s'il y en a qui connaissent bien Michel Barnier, ce sont les pêcheurs, Gilles.
Oui, les pêcheurs européens et en premier lieu les Français. Il a été leur ministre sous Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010 avant de mener les négociations du Brexit. La question de la pêche avait été centrale dans ces négociations et source de tensions entre Paris et Londres. Aujourd'hui, les pêcheurs sont plutôt satisfaits de la nomination à Matignon de Michel Barnier, Alexis Bédu.
Bruno Margolet en a passé des heures avec Michel Barnier, des réunions jusque tard dans la soirée pour ce pêcheur du nord de la France, également vice-président du Comité national des pêches maritimes.
C'est quelqu'un qui n'a jamais rien lâché jusqu'au dernier moment. On a pu le constater lors du Brexit. C'est quelqu'un qu'on a pu dialoguer. Bien sûr, ça n'a pas été simple, mais il fallait à tout prix arracher un accord.
Un accord de pêche en eau britannique qui sera d'ailleurs renégocié en 2026.
Alors, je ne sais pas si M. Barnier sera encore à la manœuvre en 2026, mais il connaît très bien les rouages de la Commission européenne.
Un atout forcément pour Olivier Leprêtre, président du comité des pêches de la région Hauts-de-France.
Comme il connaît les dossiers Brexit sur le bout des ongles, j'espère qu'il va nous en faire sortir la tête haute.
Vous aviez été satisfait de sa négociation ?
Satisfait, c'est un bien grand mot. Il a fallu attendre je ne sais combien de temps pour avoir des licences. En plus, il en manque encore. Satisfait, c'est quand tout est nickel.
Michel Barnier, un négociateur qui a fait de son mieux, bien qu'un peu trop proche de Bruxelles, estime Olivier Leprêtre.
Il est peut-être un petit peu trop pro-européen, c'est-à-dire qu'on doit toujours laver plus blanc que blanc. Donc j'espère que ses yeux vont se tourner vers notre pays et laisser un peu les folies bruxelloises de côté.
Les deux pêcheurs sont en tout cas rassurés sur un point, la France a désormais un Premier ministre.
Alexis Bédu du service économie.
Aux États-Unis, arrestation du père d'un tueur de masse.
Oui, après l'inculpation de l'adolescent, tueur présumé de 4 personnes dans un lycée de Georgie, c'est son père qui a été arrêté. Il est poursuivi pour, je cite, homicide involontaire et homicide au second degré. Marine Le Bègue, c'est le plus grave chef d'accusation jamais retenu contre le parent d'un suspect de tuerie d'école.
Oui, et principal motif de cette inculpation, il savait que son fils de 14 ans possédait une arme à feu, mais n'aurait pas cherché à lui confisquer. Pire encore, selon le média CNN, il lui aurait lui-même fait cadeau de ce fusil d'assaut, cette AR-15, l'arme utilisée dans la majorité des tueries de masse aux États-Unis. C'est aussi lui qui aurait appris à son fils à l'utiliser, selon ses propres déclarations à des enquêteurs locaux. Il y a un an, ils ont tous les deux été interrogés après que l'adolescent avait menacé sur les réseaux sociaux de tirer sur une école. Son géniteur avait alors reconnu lui avoir enseigné la chasse et le maniement des armes à feu, tout en assurant lui avoir également finalement expliqué le danger qu'elle pouvait représenter. Pour l'instant, on ne sait pas ce que risque le père du tireur, mais ce n'est pas la première fois aux États-Unis que des parents sont mis en cause dans les tueries commises par leurs enfants. En avril dernier, un couple a été condamné à 15 ans de prison. Leur fils adolescent avait tué 4 élèves de son lycée.
Merci Marine Lebec. J'ajoute que le tireur devrait quant à lui comparaître dès aujourd'hui une première fois devant la justice américaine. Selon le bureau d'enquête en charge de l'affaire, elle sera jugée en tant qu'adulte.
Au Brésil, une grande première dans la lutte contre la déforestation.
En effet, pour la première fois, plusieurs abattoirs viennent d'être condamnés en justice, précisément dans l'état de Rondônia, le plus déboisé de l'Amazonie brésilienne. Ces abattoirs doivent s'acquitter de centaines de milliers d'euros chacun pour avoir acheté du bétail en provenance de zones protégées. Simon Rosé, bonjour. On ajoute que plusieurs dizaines d'affaires similaires sont en cours.
Oui, car l'état de Rondônia paie sans doute le plus lourd tribut à la déforestation au Brésil. Cela fait des semaines qu'il suffoque sous la fumée des incendies, le plus souvent criminels. Les éleveurs de bétail gagnent ainsi sur la forêt pour agrandir leurs exploitations. La pratique, pourtant interdite par la loi, reste très répandue, mais la justice commence en effet à sévir. Des dizaines d'affaires sont en cours de jugement. Il s'agit donc là d'une première décision qui en appelle d'autres. Deux abattoirs condamnés pour avoir acheté du bétail élevé dans une zone protégée, autrefois couverte d'arbres et aujourd'hui convertie en pâturage. L'amende s'élève à plus de 700 000 euros, une somme qui servira notamment à restaurer une partie de la zone en question dans la réserve de Jaci-Paraná en la reboisant. C'est une goutte d'eau, Gilles, cependant, car cette réserve est la plus ravagée. Elle a perdu environ 80% de son couvert forestier et les dommages sont estimés à 1 milliard d'euros. Le mouvement est néanmoins engagé. D'autres décisions sont attendues, notamment concernant le groupe JBS, l'un des plus gros producteurs mondiaux de protéines animales.
Merci à vous. C'était Simon Rosé en direct dans ce journal. Poussé par des vents dépassant les 230 km/h, le super typhon Yagi a touché terre maintenant sur l'île chinoise d'Hainan, île de la côte sud où près de 420 000 habitants ont été évacués préventivement. Le dérèglement climatique et ses conséquences préoccupent beaucoup le pape François en voyage dans la région. Actuellement, il vient d'arriver en Papouasie, Nouvelle-Guinée, archipel formé de plus de 600 îles et îlots. François doit aborder l'enjeu du réchauffement climatique dans un pays qui a connu plusieurs catastrophes naturelles, dont un glissement de terrain qui a fait plus de 2000 morts. C'était en mars dernier.
Les loups sèment la terreur en Inde.
Oui, déjà, le nom qu'on leur a donné fait frémir à Anna, les loups tueurs d'enfants. Actuellement, ils sèment la terreur près de la frontière avec le Népal. En 2 mois, ils ont fait une dizaine de victimes dans l'état de l'Uttar Pradesh. Les autorités indiennes ont lancé une traque pour tenter de capturer les loups qui ont quitté leur habitat naturel. Les précisions sur place de Combasta.
Les attaques ont commencé en mai dans les villages du district rural de Baraich. 7 enfants ont été tués. La dernière fois, ce lundi, à l'aube, suite à une coupure d'électricité, une petite fille a alors été enlevée par les loups, son corps retrouvé à 500 mètres du village. Un autre enfant a été blessé dans la nuit de ce jeudi. Les loups ne s'en prennent généralement pas aux humains. Plusieurs facteurs ont pu les y pousser, comme les moussons importantes, mais aussi les activités humaines qui ont grignoté leur écosystème. Certains villageois les chassent, ce qui peut provoquer des comportements agressifs. L'absence de portes et d'éclairage peut enfin les pousser à s'aventurer dans les habitations pauvres. Il y a en tout cas urgence, tant la population locale est terrorisée par ces attaques. Une équipe de 9 chasseurs est à la poursuite du groupe de canidés. Les autorités ont aussi déployé drones, caméras et pièges. 3 loups ont été attrapés, puis envoyés dans un zoo, car il s'agit aussi d'une espèce protégée en Inde, à laquelle moins d'attention est cependant consacrée qu'au tigre, par exemple. Il resterait seulement 2000 loups sauvages dans le pays. Combastin, Bangalore. RFI.
Enfin, Volodymyr Zelensky est en Allemagne. Le président ukrainien est arrivé ce matin à Ramstein, où se tient une réunion des alliés internationaux de Kiev, au moment où l'armée ukrainienne recule dans l'Est sous la pression de la Russie en Allemagne. Volodymyr Zelensky réclame plus d'aide.
Merci Gilles Moreau. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes, et d'abord en Haïti.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques. Anne Contner.
Puisqu'il y avait un invité de marque à Port-au-Prince hier, Anthony Blinken, patron de la diplomatie américaine, en visite éclair dans le pays. Bonjour Vincent Souris.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Politique et sécurité au menu de ce déplacement qui n'a débouché sur aucune annonce concrète.
Non, en revanche, il a beaucoup écouté Anthony Blinken. Il s'est entretenu avec le premier ministre haïtien, Gary Conny. Il a aussi vu le patron du conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, avec qui ils ont parlé des élections, dans quelles conditions les organiser, comment respecter le calendrier. février. Je rappelle qu'en théorie, on parle au plus tard de décembre 2025. Et puis, Anthony Blinken a reçu à l'ambassade des États-Unis 9 responsables d'organisations politiques, manière, comme l'écrit le quotidien Le Nouvelliste, de se faire lui-même une idée du processus de transition.
L'autre pilier de cette visite, Vincent, la sécurité et l'avenir de la mission multinationale d'assistance à la sécurité.
Les Kenyans sont là, mais ça n'a échappé à personne. Il y a des problèmes logistiques, pas assez d'hommes, pas assez de matériel. On ne sait pas quand les Jamaïcains, les Béninois, les Bahaméens sont censés se déployer. Manque de coordination, d'équipement, d'objectifs clairs. Tout ça, Anthony Blinken le sait. Et il est venu dire à Port-au-Prince que les États-Unis ne pouvaient plus porter seuls cette mission à bout de bras et qu'il fallait un effort collectif.
Il nous faut plus de financement, il nous faut plus de personnel pour maintenir et réaliser les objectifs que nous avons fixés à cette mission. L'Assemblée générale des Nations unies va se tenir dans quelques semaines et j'ai l'intention d'y organiser une réunion ministérielle pour encourager les contributions, afin de subvenir à ces besoins sécuritaires, économiques et humanitaires, mais aussi pour renouveler le mandat de cette mission qui expire au début du mois d'octobre.
Il ne parle pas donc de transformer cette mission, la mission multinationale, en mission officielle des Nations Unies.
Non, pour l'instant, il réclame de l'argent parce que c'est Washington qui paye. Et si on fait les comptes, il faut 589 millions de dollars pour financer la MMAS pendant un an. Les Américains ont déjà mis à eux tout seuls plus de 300 millions de dollars sur la table, donc plus de 50% du budget de cette mission. Le Canada a donné un peu, environ 60 millions de dollars, mais il reste un trou de 150 millions. Et jusqu'ici, personne ne veut sortir son carnet de chèques. Ce qu'il dit, Anthony Blinken, c'est qu'il faut muscler tout ça si on veut que ça réussisse.
Mais changer le statut de la mission, c'est une idée qui fait son chemin.
Oui, même si ce n'est pas un oui franc et massif, la Maison-Blanche y pense. Hein, on en a parlé ici, d'après le Miami Herald, la diplomatie américaine en a même touché un mot à certains membres du Congrès américain. Le Canada, lui, y est clairement favorable. C'est confirmé par l'ambassadeur canadien à l'ONU qui était en Haïti la semaine dernière. Mais lorsque les journalistes ont posé la question hier à Anthony Blinken à Port-au-Prince, est-ce qu'il faut passer par les Nations Unies pour avoir cette force internationale stable et digne de confiance en Haïti, Anthony Blinken a répondu qu'une opération de maintien de la paix de l'ONU était une option, mais qu'il y avait d'autres solutions. Visiblement, il ne veut pas se précipiter.
Et ça ajoute un peu de confusion à un processus qui est déjà très délicat.
Oui, mais d'après le chercheur Diego Darin de l'International Crisis Group, il y a une intention politique derrière tout ça. L'idée, d'après lui, des Américains, c'est pas tellement de lancer tout de suite ce changement de statut, mais de faire comprendre aux partenaires des États-Unis que Washington ne va pas éternellement rester aux avant-postes.
Ce que compte faire cependant les États-Unis, c'est de commencer à introduire des éléments de langage dans la résolution pour que ce scénario puisse être envisagé à un moment donné, possiblement après que des élections soient organisées en 2025, pour qu'il y ait une option lorsque la mission multinationale sera retirée du territoire haïtien. Mais bien sûr, ce sera difficile de faire avaler la pilule au niveau du Conseil de sécurité avec des pays tels que la Chine ou la Russie qui pourraient s'opposer à transformer à un moment donné la mission multinationale en une mission traditionnelle de maintien de la paix.
Alors on va revenir sur la question du Conseil de sécurité, Vincent, mais d'un mot, qu'est-ce que ça changerait de passer sous la bannière des Nations Unies ?
Ça changerait d'abord les modalités de financement. La MMAS, dans son format actuel, fonctionne sur la base de contributions volontaires. Or, lorsqu'on est dans le cadre d'une mission de l'ONU, les États membres versent des contributions obligatoires. Il faut payer, il faut alimenter le budget des missions de l'ONU. On ne vous laisse pas le choix. Et puis, les Nations Unies ont des hélicoptères, du matériel médical, de quoi monter par exemple des hôpitaux de campagne. Pour l'instant, la MMAS ne les a pas et n'a pas les sous pour se les offrir.
On n'en est pas là et on n'en est pas non plus à une nouvelle mission de maintien de la paix.
Non, effectivement, on en parle beaucoup, mais il y a la barrière, comme on l'a dit, du Conseil de sécurité de l'ONU, avec sans doute un vote défavorable de la Chine et de la Russie qui jouent leur propre jeu politique. Hein, on le sait, si jamais Moscou et Pékin s'opposent à une nouvelle mission, c'est bien sûr pour contrer l'influence américaine dans la région. Mais il y a de vraies questions aussi sur l'historique des missions de l'ONU en Haïti, en particulier de la MINUSTA, la dernière 2004-2017. Bien sûr, on pense à l'épidémie de choléra, on pense aux abus sexuels qui ont choqué le pays. Mais le principe même du mandat de cette mission, à l'époque, posait des problèmes et ils ne sont toujours pas réglés. C'est ce que nous dit Lou Pinjot, professeur auxiliaire à l'Université d'Ottawa au Canada.
Si on revient un petit peu même sur le modèle d'intervention de la MINUSTA contre les gangs, encore une fois, c'était un modèle assez coup de poing, Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était un modèle de déloger ou de neutraliser les gangs sans du tout chercher à connaître par qui ils étaient financés, par qui ils étaient soutenus, est-ce qu'ils avaient des donneurs d'ordre parmi les élites, alors que tout le monde sait très bien que c'est le cas, que les élites politiques et du monde du business haïtien ont des liens avec les gangs. Bon, voilà, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ?
Voilà, quel format, quelle durée, quelle dimension ? Les questions que pose Loupinjou, ce sont autant d'arguments que les Russes et les Chinois pourraient mettre dans la balance pour faire durer les débats, pour tourner rond, pour refuser le principe d'une nouvelle mission de l'ONU. Et puis, il y a le sentiment très important des Haïtiens eux-mêmes, on l'a dit, pour le moins divisés à propos de l'héritage de l'ONU en Haïti. Illustration avec cet habitant de Port-au-Prince rencontré hier par Peterson Luxamar.
Nous faisons expérience avec plusieurs missions pour la paix.
Le pays a déjà connu un nombre important de missions étrangères. Beaucoup d'entre elles n'ont pas donné de résultats. C'est de l'argent gaspillé. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Nous engager dans une telle perspective va nous plonger dans la même situation que ce que nous avons connu avec la MINUSTAH. Nous serons là pour 5 ou 10 ans. De fortes sommes seront décaissées. Mais pour quel résultat ?
Et puis pour quel résultat ?
Au mieux, circonspection, au pire, Anne, fatalisme à propos d'un changement de statut donc très douloureux, très compliqué, alors que le pays se débat toujours face aux ravages causés par les groupes armés.
Merci Vincent Souriau.
RFI, la radio del mundo.
On va maintenant feuilleter la presse du continent avec vous, Christophe Paget, et à la une, la libération de 135 prisonniers politiques au Nicaragua, libérés et aussitôt exilés.
Oui, la Prensa parle d'un jour de grande joie pour le Nicaragua démocratique et pour l'opposition en général, mais note quand même que les prisonniers n'ont pas été complètement libérés car ils ont été bannis. Et le bannissement reste une prison, si ce n'est physique, émotionnelle. L'opération a été négociée et annoncée par les États-Unis. Confidential remarque d'ailleurs que pour ce qui est du gouvernement du Nicaragua, il reste silencieux sur le nouveau bannissement et empêche l'accès aux noms des prisonniers libérés. Alors que lors des libérations précédentes, il avait publié la liste de ces noms, rappelle 100% Noticias.
Et qui, comme le journal Confidential, a fait son enquête.
Ces quotidiens donnent des noms. En plus de ceux des 13 membres d'une organisation missionnaire chrétienne du Texas aux États-Unis, il y a des journalistes, par exemple Fabiola Tercero Castro, qui avait disparu le 12 juillet dernier, alors que, précise Confidential, 7 agents de police prenaient d'assaut son domicile. Il y a aussi des enseignants ou encore 7 hommes qui avait demandé la libération de Mgr Rolando Alvarez, qui lui avait refusé de quitter le pays l'an dernier lorsque plus de 200 prisonniers avaient été expulsés. Également, 2 personnes qui avaient peint une fresque en l'honneur de Miss Univers, la Nicaraguayenne qui avait participé aussi aux manifestations de 2018. Au Guatemala, Laura revient sur le choix de son gouvernement d'accueillir les anciens prisonniers et remarque que cette décision contraste avec l'attitude de ses prédécesseurs qui maintenaient une relation étroite avec la dictature du Nicaragua et estimaient que le pays pouvait servir à blanchir de l'argent grâce à ses solides liens d'amitié.
Aux États-Unis, le père de l'adolescent qui a tué 4 personnes cette semaine dans un lycée de Géorgie a été arrêté et inculpé.
Entre autres de meurtres au second degré, ce qui, note le Washington Post, en font les charges les plus sévères jamais enregistrées contre les parents de l'auteur d'une fusillade dans une école. Le père lui a permis d'avoir une arme en toute connaissance de cause. Les charges qui le visent sont directement liées aux actions de son fils, a expliqué hier le directeur du bureau d'enquête de Géorgie. Le Post a fait le calcul. Depuis 1999, des enfants ont commis des fusillades dans au moins 195 écoles. Et lorsque la provenance de l'arme a été identifiée par la police, dans 80% des cas, elle venait de la maison où habitait l'enfant ou de celle de connaissances ou d'amis. Mais dans seulement 11 cas, l'adulte qui n'avait pas sécurisé l'arme a été inculpé. Le quotidien note que le comté dans lequel le drame a eu lieu est très conservateur, ce qui rend la gravité des charges et la rapidité avec laquelle elles ont été enregistrées particulièrement notable.
Et après Kamala Harris et Donald Trump, le colistier du candidat républicain s'est exprimé sur le sujet.
J.D. Vance a qualifié les tueries dans les écoles de sinistres faits de la vie. Les démocrates ont immédiatement rebondi en disant qu'ils s'étaient résignés devant la réalité des tueries dans les écoles, relève le New York Times, qui rappelle qu'en janvier, dans un cas similaire, Donald Trump avait dit qu'il fallait s'en remettre et aller de l'avant. Le Washington Post rappelle le raisonnement d'une partie des républicains. La violence due aux armes aux États-Unis résulte principalement de problèmes de santé mentale et pas d'une législation sur les armes insuffisante.
On reste aux États-Unis où Donald Trump annonce ses projets pour Elon Musk en cas d'élection en novembre. Il prévoit de charger le patron de SpaceX, Tesla et X d'un audit complet de l'État américain en matière de performance et de finances.
Et, écrit Politico, Elon Musk est impatient de s'attaquer aux régulations fédérales à coups de hache. Trump veut qu'Elon Musk fasse au gouvernement ce qu'il a fait à Twitter, titre le Washington Post. Or, estime The New Republic, les précédentes tentatives de Musk pour réduire les coûts dans ses entreprises n'augurent rien de bon pour le gouvernement s'il devait prendre ce rôle. Le journal rappelle que pour ce qui est de Twitter, Elon Musk l'a dévasté au nom de la réduction des coûts en limogeant 75% de ses effectifs à la grande fureur des investisseurs, ce qui en a réduit la valeur de 90%. Or, constate le New York Times, Trump renforce son alliance avec Musk. Et selon le quotidien, si le milliardaire est élu, le patron de Tesla serait probablement au centre de l'élaboration des politiques du pays.
Christophe Paget pour la revue de presse. L'actualité du continent, c'est aussi la fin de la grève en Colombie. 4 jours à Bogota et les camionneurs colombiens ont obtenu gain de cause, en partie du moins. Le gallon de carburant n'augmentera pas de 1900 pesos, comme le voulait le gouvernement, mais de 800 pesos en décembre. Et si l'activité reprend sur les grands axes de Colombie, la journée s'annonce très compliquée. En revanche, dans les aéroports d'Argentine, les pilotes de ligne sont en grève. Ils réclament des augmentations de salaire. 150 décollages ont déjà été annulés. C'est une journée d'émotion qui s'annonce en Uruguay pour tous les fans de foot parce que la star Luis Suarez fait ses adieux à la sélection. Il jouera en match éliminatoire de la Coupe du Monde contre le Paraguay et après, fini, retraite pour le joueur de 37 ans. Un attaquant de classe mondiale mais dont la carrière, Christophe Jousset, a aussi été marquée par des comportements agressifs.
Trop de garra, comme on dit en Uruguay, trop de hargne. Un jour au Brésil, en pleine Coupe du Monde, dans le feu de l'action, Luis Suarez a mordu Chiellini, le défenseur italien, à l'épaule. Une récidive, puisqu'il avait déjà mordu 2 autres joueurs, qui lui vaut plusieurs mois de suspension et qui s'ajoute à celle purgée sous le maillot de Liverpool pour avoir employé le mot espagnol « negro » sur le terrain contre le français Patrice Evra. « J'ai commis des erreurs », reconnaît l'avant-centre aujourd'hui. On sait qu'il n'y range pas cet épisode du Mondial 2010, quart de finale contre le Ghana, il empêche un but en arrêtant le ballon de la main sur la ligne. Il prend un carton rouge, mais les Ghanéens ne transformeront pas le pénalty et seront finalement éliminés. Il serait pourtant très injuste de réduire Luis Suarez à ces moments, aussi marquants soient-ils. Il a été avant tout un formidable avant-centre, à la fois explosif, malin, efficace, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Uruguay, 69 buts en 142 sélections, un peu plus s'il marque encore la nuit prochaine au stade Centenario de Montevideo. À l'annonce de sa retraite internationale, lundi, il a eu droit à des messages d'amour de ses anciens coéquipiers du Barça, Messi et Neymar, avec qui il a formé la géniale et fameuse MSN. Sa carrière se poursuit en club avec l'Inter Miami, pour qui le pistolero a inscrit 4 buts lors des 2 dernières rencontres.
Voilà, dernier match donc pour Luis Suarez, des adieux qualifiés d'ingrédients plus que spécial ajouté à ce match. C'est ce que dit le journal uruguayen El Telegrafo. Adieux qui se feront dans un stade plein. Beaucoup ont voulu assister personnellement aux adieux du meilleur buteur de la Céleste et sans aucun doute du plus populaire des footballeurs uruguayens. Ça, c'est le quotidien guatémaltèque Prensa Libre qui l'écrit aujourd'hui.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Malgré le départ très rapide des membres du rassemblement à l'origine du mouvement contre la vie chère, la table ronde qui s'est tenue hier en préfecture a donné un premier résultat.
Oui, les membres du rassemblement ont quitté la salle suite au refus du préfet de diffuser les échanges en direct sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu tout de même des résultats. Vous le disiez, les participants se sont engagés sur une baisse des prix dès le mois prochain de 20% en moyenne sur 2500 produits dits de grande consommation. Alexandre Ventadour, élu à la collectivité territoriale de la Martinique, a participé aux échanges hier et il a répondu ce matin en direct sur les ondes de La Première aux questions de Grégory Gabour.
De mon point de vue, et je me suis exprimé là-dessus, ce n'est pas faisable, ce n'est pas souhaitable dans l'état actuel des choses d'avoir à 6700 km les mêmes prix donc en Martinique qu'en Hexagone. En revanche, quand l'INSEE parle d'une cherté de la vie en Martinique de 15% et de 40% sur l'alimentaire, Moi, je trouve ça désastreux, je trouve ça injuste. Et qu'on me dise que la vie est plus chère en Martinique due à l'éloignement de 15%, ça, je peux l'entendre. De 40%, et on sait bien que sur pas mal d'exemples, c'est parfois plus que 40%, ça, je ne peux pas l'entendre. Donc, ce que j'ai posé en objectif de la réunion hier, c'est travaillons tous à ramener la différence de prix entre la Martinique et l'Hexagone, non pas à 40% sur l'alimentaire, mais à 15%. Avec un octroi de mer très bas, avec une TVA à zéro, avec également une péréquation du fret, avec la pratique commerciale qui soit la plus ajustée possible des distributeurs, on puisse arriver, et je le répète, à un différentiel de seulement 20% et plus 40% entre le prix Hexagone et le prix Martinique sur 2500 produits dans un laps de temps qui soit audible pour le Martiniquais, c'est-à-dire de ce qu'on s'est dit hier pour le mois d'octobre.
Un tout autre sujet, la Guadeloupe maintenant. La Guadeloupe dans le top 20 des régions françaises les plus touchées par les crimes et délits. En l'espace d'un an, les chiffres de la délinquance auraient bondi de 5% avec en point d'orgue, si l'on ose dire, les vols de véhicules et les homicides. Éric Bagassien.
Préoccupation majeure, les vols de véhicules en hausse de plus de 40% et les homicides plus de 33%. Il y a des sujets de satisfaction, le trafic de stupéfiants, moins 18% de baisse, les vols d'accessoires de véhicules et les destructions et dégradations volontaires. Sur la question de l'insécurité, la ville des Abîmes se situe en haut du tableau des communes avec le plus d'insécurité. Outre les données des communes, plus globalement, les cambriolages augmente de 5,9% sur un an en Guadeloupe. L'ensemble de ces chiffres rapportés au nombre d'habitants, quelque 384 000, place pour 2024 la Guadeloupe au rang de 19e département en matière de crimes et délits.
Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
Merci Benoît Ferrand, à lundi. Et merci à tous d'être avec nous. Dans 4 minutes maintenant, vous avez rendez-vous avec Pascal Paradoux pour l'émission De Vive Voix. Et d'ici là, je vous propose d'écouter un peu de musique. Le groupe réunionnais Saoudage et son titre Somain Grand Bois. Et c'est avec le groupe réunionnais Saoudage que se termine RFI Midi aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. L'émission a été réalisée par Vincent Bito. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi, 11h, temps universel.
RFI, la sélection du mois.
Aya Nakamura.
J'ai compris, tu te prends pour mon père. Avec toi, c'est le monde à l'enfer. Si je dis les choses, je me suis fâché. Moi, j'ai pas saigné pour ça.
Tellement où t'es pas plaisir à faire mon parler, l'aime danger.
Lissina Isdine.
Si un jour on rencontre ma chance, même si la vont changer.
RFI Musique.
Ou parler, l'aime danger.